France Inter.
J'ai toujours aimé cette maxime de Vauvenargue. C'est le propre d'un esprit médiocre que d'admirer modérément. Non que je veuille me donner ainsi un quelconque brevet de mérite, mais l'exercice d'admiration, pour reprendre un titre de Cioran, m'a toujours paru nécessaire. Michel Simon est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son livre intitulé « Une vie de cinéma ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Et ce soir, ça sera Nougaro.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma. Sans pognon et sans caméra, Bardot peut partir en vacances. Ma vedette, c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. D'abord un beau plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine, un grand format. Voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, des biceps plein les manches. Je grève l'écran de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Le lit arrive en avalanche. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma, une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches, comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène au ciel.
Aller au cinéma, Michel Simon, ça veut dire être dans le noir. Et commençons par le commencement. J'ai l'impression que le noir de vos origines a peut-être été favorable à votre amour du cinéma. Pourquoi votre mère a-t-elle attendu l'âge de 95 ans pour vous dire qu'elle était d'origine juive alors qu'elle l'a caché pendant toute la durée de son existence?
Et que mon père était juif, par contre, et qu'il ne le cachait pas puisqu'il était poursuivi pendant la guerre, c'est un mystère. C'est effectivement un mystère, d'autant plus que la famille de mon père, qui considérait cette goye sans hostilité véritable, mais ne la considérait tout même pas partie de la famille, alors qu'elle en faisait partie. Je ne sais pas. C'était trop tard pour que ma mère m'explique ce refoulement. Mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Mais en même temps, c'est vrai que dans mon éducation, dans ma culture, les origines hongroises de mon père, juif hongrois, l'Europe centrale, je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que un très grand nombre de cinéastes que j'aimais venaient de cette région-là, que ce soit Kubrick, que ce soit Billy Wilder, ou c'était des émigrés, des gens qui changeaient de continent, comme Lozay, ou des gens comme Francesco Rosi, qui passaient du sud au nord de l'Italie, c'est-à-dire en fait des gens qui n'étaient pas à l'aise toujours dans l'endroit où ils étaient.
Et Ciment, Ciment, c'est votre nom ?
C'était Ximent, c'était C-Z-I-M-E-N-T, et après la guerre, mon père a failli y rester, il était naturalisé, il a choisi de franciser son nom. Ce que j'aurais préféré garder le nom de Ximent, ça n'aurait évité que les gens disent Ciment à chaque fois que je rentre dans un hôtel, qu'on entend mal mon nom.
Donc, vous avez connu une phase où vous vous appeliez Ximent et ensuite Ciment.
Voilà, à l'école.
Il a fallu changer de nom, c'est pas évident pour un petit garçon.
Voilà, à l'école, mais ça a pas duré très longtemps, c'était les deux premières années d'école après la guerre.
J'ai l'impression que le hasard a joué beaucoup à l'intérieur de votre itinéraire, même si la passion a toujours été prédominante. Et qu'on ne s'y trompe pas, Michel Ciment, votre première passion, c'était la littérature.
C'est vrai, mais elle est restée très forte, comme la peinture d'ailleurs, comme tous les arts. Mais j'ai toujours pensé que le cinéma, enfin c'est une banalité de le dire, est une synthèse de tous les arts. Et je peux pas imaginer d'exercer la critique de cinéma sans être à l'écoute du théâtre, à l'écoute de la littérature, à l'écoute de la peinture, à l'écoute de la musique, puisque tout cela se retrouve dans un film. Donc comment peut-on juger d'un film si on ne s'intéresse absolument qu'au cinéma ? Donc je suis un cinéphile absolument, je le renie pas, mais je ne suis pas de ces cinéphiles pour qui il n'y a que le cinéma.
Et pourtant, vous défendez d'abord, pour celles et ceux qui ne seraient pas encore cinéphiles ou qui n'iraient pas trop souvent dans une salle de cinéma, vous défendez les films populaires d'abord et ensuite les films d'art et d'essai.
C'est-à-dire que...
Vous n'êtes pas élitiste.
Non, je pense que les deux dangers, en France en particulier, c'est le populisme et l'élitisme. C'est-à-dire effectivement l'entre-soi, c'est-à-dire des films qui sont faits pour un petit nombre de gens. Il en est de grands, bien sûr, et qui ne connaissent pas le grand succès. Mais et puis le populisme qui triomphe aujourd'hui partout, où on cite sans arrêt le nombre d'entrées, etc., comme un critère quelconque. Il y a même maintenant un César du public, c'est-à-dire le film qui a fait le plus d'entrées, c'est-à-dire Les Tuches. D'abord, c'est complètement faux, cette notion du film le plus populaire. Ça ne veut pas dire qu'il y a 5 millions de gens dans les salles, ça ne veut pas dire que c'est le film qu'ils ont trouvé le meilleur de l'année. Ils y sont allés. Mais si ensuite on leur demande, par exemple, vous avez vu le western de Jacques Audiard et vous avez vu Les Tuches, quel est le meilleur des deux? Ils vont probablement à 90% vous dire, bah, c'est le western de Jacques Audiard, mais ils sont allés voir Les Tuches pour se détendre parce que le travail au bureau ou en usine est fatigant. Ils ont envie de s'amuser avec des copains, ils vont voir le film. Ça ne veut pas du tout dire que c'est leur film préféré de l'année. Donc c'est une grande imposture de dire que c'est un mépris des gens que de dire que c'est ce film-là qu'ils préfèrent à tout.
Ça veut dire quoi être dans le noir?
Être dans le noir ?
Ben oui, il faut, quand on va voir un film, être dans le noir. Ah, vous aimez cette sensation ?
Être dans l'obscurité, oui, oui, j'aime le noir. Parce que le noir n'est pas si noir que ça, parce qu'en fait, on a vraiment le sentiment d'être à côté des autres. On sent vraiment la présence d'une salle, c'est pas du tout la même chose. Et c'est regrettable d'ailleurs que les critiques voient les comédies souvent en projection privée à 12 personnes, parce qu'une comédie aussi, elle fonctionne si les gens rient. Et tout de même là, on peut s'interroger. Alors parfois, on réagit négativement, c'est-à-dire devant des dialogues stupides, de voir les gens s'esclaffer, ça vous dégoûte. Et au contraire, par contre, on peut apprécier un film davantage parce qu'on est porté par les rires du public qui peuvent être justifiés.
Peut-on revoir un film les yeux fermés et le goûter plus particulièrement ?
Écoutez, il y avait un grand critique, Jean Demarquis, qui écrivait au Gaillard du cinéma, mais c'est pas une pique que je lance. C'était un homme qui dormait souvent, mais en général, il se réveillait à la fin, il avait un jugement très sûr. C'est-à-dire que, en général, il ne se trompait pas sur les chefs-d'œuvre, même s'il ne les avait pas vraiment vus.
Quelle est la part d'abandon et d'inconscient ou de semi-conscient quand on va au cinéma pour en faire son métier ?
La part d'abandon ? Écoutez, d'abord, par exemple, quand je vais voir des films, comme beaucoup de mes confrères en projection privée, on nous distribue des dossiers de presse. Je ne lis rien avant de voir un film. Parce que je pense qu'il faut se mettre dans un état, Bon, on peut pas être dans une virginité totale quand on est critique de cinéma, parce que et on lit les journaux, on connaît le metteur en scène auparavant, etc. Mais néanmoins, je préfère être surpris. Et je regarde même parfois même pas quels sont les comédiens. Je ne me renseigne pas du tout à fond sur les films qui vont sortir, avec qui, ça parle de quoi, etc. Et donc, d'une certaine façon, c'est ça. J'arrive dans un état de relativement de disponibilité.
Et quand vous sortez, vous pouvez chanter dans la rue tellement vous êtes heureux, ou vous pouvez avoir une mine sombre parce que le film vous a déplu et il vous a fait perdre votre temps.
Il y a quelques films tout de même qui produisent un effet euphorisant. Peut-être pas d'aller jusqu'à danser dans la rue. D'abord, je danse moins bien que Gene Kelly, donc je me ridiculiserai pas à danser dans des flaques d'eau. Mais c'est vrai que la plupart des films que j'ai aimés et des metteurs en scène auxquels j'ai consacré des livres, c'est parti d'un choc quand j'ai vu un film d'eux, quand j'ai vu Hiroshima Mon Amour pour la première fois, quand j'ai vu L'Odyssée de l'espace pour la première fois, quand j'ai vu Le Voyage des comédiens d'Angelopoulos pour la première fois, quand j'ai vu tous ces films, ou quand j'ai vu par exemple le film turc Nuages de mai de Nuri Bilge Ceylan. Bon, c'est des choses qui m'ont marqué profondément, et en général, à partir de là, j'ai commencé à suivre le travail de ces gens-là qui m'ont parfois déçu par la suite, pas ceux que je viens de citer, d'autres que je ne citerai pas, mais en général, ça vient d'un choc initial, ou Salvatore Giuliano de Francesco Rosi. Voilà, ce sont des films qui m'ont considérablement marqué.
Un film vieillit-il bien comme les bons vins ?
Oh oui, absolument. Surtout que on n'est pas dans la meilleure période du cinéma. Donc c'est vrai que quand on voit des films qu'on a admirés il y a 50 ans ou il y a 40 ans, etc., et qu'on les voit aujourd'hui, et qu'on se rend compte qu'ils sont plus modernes que ce qu'on voit aujourd'hui, tous ceux que je viens de citer, et Citizen Kane et d'autres, à ce moment-là, ça mûrit d'autant mieux que la comparaison est souvent en faveur des films anciens, même s'il y a encore... Je ne travaillerai pas à Positif tous les mois avec des couvertures différentes chaque mois si je ne pensais pas que le cinéma d'aujourd'hui produit encore des grands films. Mais il en produit moins qu'à certaines époques.
Revoir un film, c'est important ?
C'est très important, mais on le revoit par plaisir. Il ne faut pas le revoir par obligation.
Mais est-ce qu'on peut tout comprendre dès la première fois ? Et qu'est-ce que c'est que cette notion de première fois au cinéma ?
Non, je pense pas qu'on puisse tout comprendre. Enfin, il y a certains films qui demandent certainement une réflexion, une deuxième vision. Mais tout de même, si un film ne plaît pas vraiment la première fois, je sais que Woody Allen disait le contraire de 2001. Il disait la première fois, je trouvais que c'était très mauvais, puis la deuxième fois, je trouvais que c'était un des plus beaux films de l'histoire du cinéma. Donc, tout est possible, et dans la vie, il y a toutes les possibilités d'opinion. Mais je pense que la première fois qu'on voit un film, on doit tout de même être agrippé par ce film, avec le désir peut-être de mieux comprendre et de le voir une deuxième fois. Par exemple, un film qui va sortir bientôt, vous avez peut-être vu, Laura Adler, c'est le deuxième film de l'auteur du Fils de Saul, c'est-à-dire Sunset, Crépuscule, qui est un film qui a été assez mal accueilli par un certain nombre de critiques au Festival de Venise, que moi j'ai trouvé absolument extraordinaire, avec la volonté de le revoir, parce qu'il y avait des choses dans le scénario qui me paraissaient pas claires. Mais le film était d'une telle beauté. Moi je crois beaucoup à l'image. Je pense que c'est une banalité de dire ça. Le cinéma est un art visuel. Mais souvent, les comptes rendus de films que l'on lit, c'est des résumés de romans. C'est un livre de chez Gallimard. On ne parle pas de la lumière, on ne parle pas du montage, on ne parle pas du mouvement d'appareil, on ne parle pas du jeu des comédiens. Tout ce qui fait le cinéma. On parle de l'histoire, de l'idéologie. Est-ce que c'est de droite? Est-ce que c'est de gauche? Est-ce que c'est bien pensant? Et puis, on vous raconte l'histoire. Mais le cinéma, c'est tout de même des formes, et des formes visuelles avant tout. Eh bien, je pense que c'est très important quand on voit un film de s'attacher à cela.
Pourquoi allez-vous encore au cinéma ? Pour suspendre le temps ou pour mieux comprendre votre propre histoire ?
J'y vais pour deux raisons. J'y vais évidemment pour découvrir. C'est resté ma passion, c'est-à-dire voir des premiers films, découvrir des talents et essayer de les soutenir et de les aider. Et puis la deuxième chose, c'est de rendre compte du monde et de moi-même. Enfin, c'est-à-dire des films qui m'éclairent. C'est ce qu'a écrit dans un petit livre Tsvetan Todorov, que j'ai découvert récemment, qui date d'une quinzaine d'années, où Todorov critique sa jeunesse formaliste, où il parlait de sémiologie à bout de temps. Il disait « Je ne parlais jamais du monde ». Et finalement, le lecteur a raison, ou le spectateur a raison, qui demande qu'on lui parle du monde, et donc de lui.
Rares sont les philosophes à aborder le cinéma et à en faire une théorie philosophique. C'était le cas de Gilles Deleuze. Vous avez eu la chance d'être son étudiant. Je vous propose d'écouter sa voix. Il va donner sa définition du cinéma. C'est un extrait d'un séminaire de 1981.
Je dirais, ce qui a rendu possible le cinéma, c'est même pas la photo, c'est la photo instantanée à partir du moment où l'on a pu assurer l'équidistance des images par la perforation. Bon, ça, c'est la définition comme technique. Mais on voit bien dès lors que le cinéma se trouvait dans une espèce de situation à la limite sans issue. Sa grandeur faisait même, sa nouveauté même faisait que, dès le début, on allait se retourner contre lui, sur lui, en disant, mais alors quel intérêt? Quel intérêt? S'il s'agit de reproduire le mouvement à partir d'une série d'instantanés, quel intérêt? Intérêt artistique, intérêt esthétique, nul. Intérêt scientifique, nul. Ou bien si petit, si petit. Voilà que tout se retourne contre lui à partir de son originalité. Voyez, parce que on dira, c'est possible tout ça, le cinéma il reproduit le mouvement à partir d'une analyse du mouvement. Ça n'empêche pas qu'il n'y a d'art. Et que ça, c'est une condition de l'art, que dans la mesure où le mouvement est reproduit à partir d'un ordre des poses ou d'une dialectique des formes. Et en effet, la preuve que le cinéma n'est pas de l'art, on l'invoquait comme Bergson, dans cette succession mécanique des instantanés.
Nous venons d'entendre la voix de Gilles Deleuze. Que vous a-t-il apporté dans sa réflexion du cinéma, Michel Simon?
Écoutez, d'abord, c'est vrai que c'était en Hippocagne, en 57, où j'avais 9 heures de cours avec lui, et où il m'a décerné le prix de philosophie, ce qui me flatte encore plus rétrospectivement. Et on passait pas mal de temps à parler ensemble, en déjeunant au Balzar, à côté de la Sorbonne. Et plus tard, mais en fait, à l'époque, il était très cinéphile. Il adorait, par exemple, il parlait de Buster Keaton, il parlait de Jerry Lewis, il parlait de Stroheim, mais il écrivait pas du tout sur le cinéma. Et ensuite, pendant des années, il a produit tellement de choses admirables et qui prenaient un temps considérable qu'il n'allait plus du tout au cinéma. Et je l'ai retrouvé, on n'arrêtait pas de se revoir, mais je l'ai retrouvé quand il a commencé à préparer ses 2 volumes sur le cinéma aux éditions de Minuit, et où il avait besoin de documentation. Donc je lui apportais des numéros de positifs, il avait des cahiers aussi, il lisait ses 2 revues, il lisait des livres, etc. Il me demandait un peu de le fournir en matériaux parce qu'il avait du temps à rattraper dans la mesure où pendant une dizaine d'années ou une douzaine d'années, il n'avait traité de philosophie pure ou de Kafka ou de Proust, mais pas de cinéma. Mais c'était tout de même un vrai cinéphile. Mais il nous en parlait pas tellement dans ses cours. Dans ses cours, ce qui me captivait, c'était, on vient de l'entendre, c'était cette voix extraordinaire. C'était vraiment une sorte de côté socratique. Il créait vraiment un échange avec les élèves, et je l'ai fasciné. Il y avait certains de mes camarades, pas tous, beaucoup de gens l'admiraient, mais d'autres qui lui reprochaient de ne pas préparer un normal sub, de ne pas faire un enseignement qui vous cadrait les choses de façon beaucoup plus simplifiée, et que c'était un peu une divagation, ou en tout cas, et c'était au contraire, moi, ce qui me fascinait. Comme finalement j'ai pas passé normal sup, je me suis retiré après l'Hippocagne, je suis allé en Sorbonne, j'ai pas eu à souffrir peut-être de ce manque de préparation.
Enfin, et après la Sorbonne, vous avez fait On the Road Again comme Jack Kerouac. Vous êtes parti pour les États-Unis, voilà, et je pense que cette expérience a été aussi très importante pour votre définition du métier de critique et d'amoureux du cinéma, parce qu'on a l'impression qu'à cet instant-là de votre vie, vous avez compris, ressenti la vastitude et l'immensité du monde.
C'est vrai, et surtout j'ai eu la chance, alors que la Sorbonne était encombrée, c'était bien avant 68, c'était 7-8 ans avant 68, la Sorbonne était sclérosée, il y avait des cours magistraux avec 500 personnes, on ne parlait jamais aux professeurs. J'ai eu la chance d'être dans un des collèges les plus célèbres des États-Unis, Amherst, où avait vécu Emily Dickinson, et dans ce collège de la côte Est, j'ai découvert un univers que je ne pouvais même pas appréhender, que j'avais jamais entendu parler. C'est-à-dire que des professeurs faisaient des cours sur la pelouse de leur maison à 25 étudiants, c'était un peu des séminaires. Il y avait une bibliothèque qui était ouverte jusqu'à minuit, on pouvait aller dans les rayons choisir soi-même les livres. Il y avait la collection complète des temps modernes, la collection complète de la NRF, etc. Et j'ai créé un ciné-club à l'époque, il y avait même pas, parce qu'à l'époque le cinéma était absolument ignoré des Américains, à part peut-être à Los Angeles, il n'y avait pas de section de cinéma. Et donc j'ai créé un ciné-club, j'ai montré des films, j'ai été attaqué par l'extrême droite parce que j'avais montré Alexandre Nevsky d'un communiste, voilà. Et c'est ensuite, j'ai fait un voyage à travers l'Amérique en autostop, d'abord en voiture, puis en autostop, et j'ai découvert ce continent effectivement extraordinaire, et surtout cette Amérique qui était à la fois ce continent immense, vaste, avec des paysages grandioses, et en même temps des ermitages, des abbayes, comme au Moyen-Âge, avec ces collèges, où on vivait en communauté restreinte, avec tout à portée de la main. Il y avait une radio locale gérée par les étudiants, un journal local où j'ai commencé à écrire, c'était mes premiers pas, j'avais 20 ans, faire de la critique de cinéma dans ce journal en anglais. Donc c'était vraiment la découverte d'un monde totalement nouveau pour moi, et j'ai toujours eu un rapport très ambivalent avec les États-Unis. À la fois, je peux la détester, tout ce qu'elle a pu faire d'horrible, et aujourd'hui particulièrement, et en même temps une grande admiration. C'est un pays très complexe, et j'ai pu en mesurer la complexité.
Le cinéma est-il pour vous, Michel Simon, un agrandissement du monde, ou plutôt une manière d'intérioriser vos propres interrogations ?
Ben, je suis pas normand, mais je dirais que c'est les deux. C'est-à-dire, je pense que c'est un agrandissement du monde, parce que effectivement, le cinéma, à travers les films du XXe siècle, c'est toute l'histoire du XXe siècle, c'est tout même le grand témoignage que l'on a. C'est l'art qui rend le plus compte, peut-être parce qu'il a remplacé la figuration qui existait en peinture, et que c'est l'apanage aujourd'hui du cinéma. La photo commence à devenir également très capitale, très importante. Mais tout de même, le cinéma nous permet d'avoir accès au monde dans sa diversité. On voit des films du monde entier. On connaît Taïwan par le cinéma de Wu Xiaoxian. On connaît la Corée par Lee Jang-dong. On connaît la Turquie par Nuri Bilge Ceylan. Donc c'est une ouverture prodigieuse sur le monde. Mais c'est aussi l'intériorité. C'est-à-dire, c'est aussi une façon, quand on pense à Alain Resnais, par exemple, c'est une façon de comprendre les mécanismes de la mémoire du temps, etc. Donc, c'est la richesse du cinéma. Je disais tout à l'heure que c'était la synthèse de tous les arts, et je pense que effectivement, c'est ça qui me fascine dans le cinéma.
Je vous propose d'écouter la voix de David Hockney, un de nos plus grands artistes vivants. Il va parler de l'importance de son instinct dans son travail et de sa vision de la photographie par rapport à la peinture. C'est une archive INA du 26 janvier 2011.
Well, I follow my instincts.
Je suis mon instinct.
But I've always assumed, you know, not everybody follows my work. I mean, in the way I do, meaning.
Tout le monde ne s'intéresse pas à mon travail autant que moi, ou tout le monde ne l'interprète pas comme moi. Par exemple, j'ai toujours été intéressé par l'espace pictural. L'espace dans l'image joue un rôle important dans mon travail. Tout le monde ne s'en est peut-être pas aperçu. On peut penser que c'est un sujet comme un autre pour moi, mais non, c'est un sujet très important et j'y reviens régulièrement. En revanche, la photo, c'est quelque chose que je critique. La photo, ça rend le monde plat, c'est ce que disait Van Gogh, je suis assez d'accord avec lui. C'est pas une façon humaine de voir les choses, la photo, à mon avis. À mon avis, l'image peut être plus vivante aujourd'hui. À mon avis, les photographies vont devenir datées dans un certain temps. Moi, je me suis intéressé à l'utilisation des caméras par les artistes. Bientôt, je vais me rendre à une conférence sur l'histoire de l'art à Oxford. On m'y fait intervenir comme conférencier à la suite de mon travail sur Secret Knowledge, et je vais dire qu'il y a des choses merveilleuses qui peuvent être développées, mises au point grâce à la technologie. La technologie, c'est bien, mais il n'y a pas besoin d'être complètement cinglé pour savoir s'en servir. Et je crois qu'en fait, on est dans une foule de mouvements tout à fait passionnants, à mon avis. Ça me stimule beaucoup, ça. Le monde est beau, voilà.
Alors David Hockney, on le sait, est un peintre qui continue à travailler. On le sait aussi, c'est un des peintres aujourd'hui les plus chers du monde. un de ses tableaux dans la série des piscines, des fameuses piscines, s'est vendu à un prix défiant toute imagination récemment. Il parlait de la nouvelle technologie. Et vous, Michel Simon, on pense que vous passez votre vie au cinéma. C'est vrai, je peux en témoigner. Vous êtes beaucoup, beaucoup au cinéma. Mais vous pouvez tout autant, et peut-être encore plus, prendre un train ou un avion pour aller voir une exposition à l'autre bout du monde, parce que vous ne pensez pas le cinéma sans l'art de la peinture ou de la photographie. Pourquoi ?
Pour ce que je viens de dire, c'est-à-dire que parce que je peux pas, moi je suis pas futur cinéaste, j'ai jamais été cinéaste, mais je pense que les jeunes cinéastes devraient aller au Louvre, ils devraient aller dans les musées, dans les expositions, etc., se former. Tous les grands cinéastes que j'ai fréquentés, que ce soit Fellini, que ce soit Kubrick, que ce soit Kazan, que ce soit Bourmal, enfin tous ces gens-là, Buñuel, c'est des gens qui connaissaient la peinture, qui connaissaient la littérature, qui se cultivaient. Ils n'avaient pas une éducation strictement cinématographique. Mais c'est intéressant que vous citiez David Hockney, parce que c'est tout de même un très bon exemple. Moi, j'ai toujours été passionné par la peinture d'Hockney, comme celle de Kita, comme celle de Bacon, mais tous ces Anglais figuratifs ont été totalement écartés des achats des musées français. Pourquoi ? Parce qu'après la guerre, on disait c'est fini, c'est obsolète, on ne peut plus faire de figuration. C'est Bazaine, c'est Bissière, c'est Vieira da Silva. C'est-à-dire la peinture doit être non figurative. Et ça, c'est vraiment le crime majeur de la critique, c'est-à-dire décider de ce que doit être un art. Un art est extrêmement complexe. Un art peut prendre toutes les formes. Et maintenant, on commence à découvrir que Bacon, que Hockney, que tous ces gens-là sont d'immenses peintres qui n'ont pas été achetés. Quand on voit les...
Il y a une grande rétrospective au Centre Pompidou de David Hockney, qui a d'ailleurs eu un succès.
Oui, ce sont des rétrospectives, et ça ne veut pas dire qu'on a acheté ces tableaux en 1947 ou en 1954 ou en 1960. C'est-à-dire que le dogme, c'est terrible, c'est la même chose quand Godard nous disait, et Serge Danet, le cinéma est mort, il ne peut plus raconter d'histoire. Mais non, le cinéma est plus vivant que tous les critiques. Le cinéma continue sa vie, le cinéma continue à raconter des histoires, même si des spécialistes ont décidé qu'il était terminé. Le cinéma est vivant par ceux qui le font. C'est ça qui compte, c'est les artistes, c'est pas les commentateurs ou les théoriciens.
Parmi vos cinéastes préférés, il y en a beaucoup, hein. Dans ce livre, il y en a énormément, on y reviendra tout à l'heure. Mais il y a quelqu'un que vous avez suivi dès les débuts, quelqu'un qui a travaillé jusqu'à son dernier souffle, quelqu'un qui était d'une immense fragilité malgré la force de ses scénarios et malgré l'émotion qu'il nous procure. Quand nous voyons et revoyons tous ces films, je veux parler de Stanley Kubrick, nous allons écouter sa voix. C'est un entretien avec vous, Michel Simon, parce qu'on ne dira jamais assez à quel point vous avez été le transmetteur de nos passions, vous avez été le professeur en amour de nos passions cinématographiques, à quel point nous, quand on était jeune, et même moins jeune encore aujourd'hui, quand on va voir des cinéastes qui sont des idoles pour nous, on a l'impression qu'ils sont tellement forts, qu'ils sont tellement pétris de certitudes, qu'ils en oublient d'être des humains et d'avoir des fragilités. Eh bien justement, vous réussissez très souvent dans vos entretiens à parvenir à faire s'exprimer les petites choses qui tremblent à l'intérieur des êtres, et particulièrement les artistes. Écoutez un extrait d'un entretien que vous avez fait en 1987 avec Stanley Kubrick, qui va parler de ses interrogations quand il fait un film.
Je m'aperçois que mes processus de pensée, mes choix, sont durs à définir précisément. Quelle histoire prendre ? On peut définir les qualités requises. Une histoire intéressante, les personnages aussi. Des possibilités de beauté photographique et de montage. Elle doit donner aux acteurs l'opportunité de montrer des émotions. Et elle doit être honnête par rapport au sujet qu'elle traite. Mais ces critères ne vous disent pas pourquoi vous avez choisi cette histoire précise. Finalement, c'est aussi indéfinissable que de tenter d'expliquer pourquoi on trouve une femme attirante ou pourquoi on a épousé telle autre.
Ben c'est bien dit hein, par Stanley Kubrick, et c'est une belle définition de son propre cinéma. C'est le tremblement, c'est le mystère qui demeure quelquefois dans certaines œuvres cinématographiques qui vous intéressent, Michel Simon.
Oui, et bien sûr, vous avez raison de le dire à propos de Kubrick. C'est tout de même c'est le cinéaste, un des grands cinéastes justement du mystère, et qui s'incarne en particulier ce mystère dans son film le plus célèbre, 2001. L'Odyssée de l'espace, qu'on peut revoir 10 fois, et on est toujours à la fois fasciné, on le regarde jusqu'au bout, et en même temps, on est toujours dubitatif sur le sens à attribuer à ce film. C'est une expérience non verbale. Et quand j'ai fait ce livre sur Kubrick, la première édition, c'était en 1980, paradoxalement, il n'existait pas de livre sur Kubrick en français. Il en avait très peu en anglais, mais aucun en français. Parce que Kubrick, finalement, les gens s'en méfiaient dans la mesure où il n'y avait pas la signature. Ce qu'on recherche, c'est la signature à tout prix qu'un metteur en scène, on le retrouve dans chaque film. Ce qui est pratique pour la critique, parce que quand on est paresseux, on refait la même critique si l'auteur fait toujours à peu près le même film. Tandis qu'il y avait Kubrick qui changeait tellement de son fusil d'épaule à chaque film. Ça passait de Barry Lyndon à Full Metal Jacket, de Shining à Eyes Wide Shut, que finalement, les gens étaient très perplexes et ne le considéraient pas comme un auteur. Et moi, il me semblait, par l'illustration que je fournissais dans mon livre, qu'il suffisait de comparer des plans entre eux et on retrouvait des thèmes, mais c'était visuel, ça passait par le visuel. D'ailleurs, Kubrick racontait une histoire très drôle sur 2001. Il disait, 2001, les enfants de 6 ans, par exemple, ils voyaient que le vaisseau au début se posait sur la Lune. Bon, mais on ne le disait pas dans le texte. Donc, mais les gosses savaient, parce qu'ils ont une éducation visuelle, que c'était la Lune. Alors que les gens de 70 ans, ils disaient, mais où est-ce qu'on est ? Parce que ça n'était pas dit dans le dialogue. C'est-à-dire qu'il y avait des générations qui se fiaient au film sur le dialogue, sur uniquement les mots. Alors que Kubrick, c'est une expérience justement non-verbale.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Michel Simon.
mon amour.
L'amour physique est sans issue. Je vais, je veux et je viens. Entre tes bras. Je vais et je viens.
Ben merci pour ce choix, Michel Simon. C'est Brigitte plus Serge, ou Serge plus Brigitte, ou Serge avec Brigitte, où vous les avez choisis tous les deux?
Ben c'est pour que, dans ce livre, c'est un peu une anthologie. C'est pas bien sûr tout ce que j'ai écrit, et j'ai fait 1000 entretiens, à la radio en particulier. Donc il s'agissait de choisir quelques choses mémorables pour moi, qui me tenaient à cœur. Et c'est Gainsbourg, entre autres. Il y a Coppola, il y a les prix Nobel de littérature comme Vargas Llosa ou Imre Kertész ou Harold Pinter, mais il y avait Gainsbourg, parce que j'ai eu le plaisir de découvrir ces films qui étaient en général assez méprisés et très mal accueillis. Le dernier en particulier, Stan the Flasher, où il y a un Charlotte Forever. Et j'ai fait deux entretiens avec des amis, d'ailleurs, un avec Jean-Pierre Jeancola, l'autre avec Philippe Rouillet. Pour moi, c'est des grands souvenirs de ma vie, c'est-à-dire passer 6 heures rue de Verneuil avec Gainsbourg, qui ne nous lâchait pas, qui était tellement heureux, parce qu'il adorait Positif, et il était très proche des surréalistes, donc il aimait Buñuel, il aimait René, il aimait tout ce cinéma-là, Louis Malle, et il nous a invités à déjeuner, après on est retourné continuer l'entretien, puis après il a traversé la rue, on était en face de chez Losfeld, l'éditeur des surréalistes, il nous a offert les œuvres complètes de Picabia, enfin, c'était tout à fait absolument incroyable, et j'étais fasciné par je trouve que ces entretiens sont oubliés, parce que personne n'en parle dans les biographies de Gainsbourg. On va vers les journaux de musique et de chansons. On pense pas à aller en Positif où ils ont été publiés. Et c'est des entretiens qui me rappellent des souvenirs assez inoubliables.
Alors effectivement, vous avez deux entretiens à l'intérieur de ce volume, Une vie de cinéma avec Gainsbourg, qui sont absolument stupéfiants à la fois pour la profondeur des répliques, on peut pas trouver un autre mot, de Gainsbourg à vos questions, parce que il a une faculté de réponse et une rapidité de tennisman, et aussi par l'analyse de Gainsbourg, l'analyse qu'on fait de son cinéma, et aussi par la définition de ce que ça veut dire pour lui, Gainsbourg, être critique. Et voici ce qui vous répond à la question « Que pensez-vous des critiques ?» Voici ce qu'il dit. « Il faut dissocier la critique d'humeur de la critique analytique. C'est très important. Celui qui fait un papier d'humeur n'est pas un professionnel. Il veut me laisser dans le ghetto des showmen. » Et ensuite, il poursuit. Alors moi, je vous pose la question, Michel Simon. Vous êtes plutôt un critique analytique ou plutôt un critique d'humeur ?
Je suis un critique analytique, mais ça serait dommage qu'il n'y ait pas d'humeur du tout dans ma critique. C'est-à-dire que, effectivement, je pense que le rôle du critique, c'est tout de même d'éclairer l'obscur, peut-être d'obscurcir le clair aussi. Tandis que l'humeur, quand il est simplement pour faire un bon mot, j'en ai fait, et puis je le regrette après. Mais en même temps, on peut pas non plus ne pas avoir de l'humeur. C'est-à-dire que quand on voit des films qu'on trouve choquants, scandaleux, moralement répulsifs ou esthétiquement débiles, je trouve tout à fait normal qu'on se laisse aller à l'emportement, à la colère. Il peut pas y avoir de valeur à l'approbation s'il n'y a pas également chez soi la possibilité de désapprouver.
Avez la dent dure, hein.
Je peux avoir la dent dure, oui, absolument.
Pas forcément avec les cinéastes, mais avec vos petits camarades critiques, hein.
Ah ben oui, parce que j'ai une haute idée de la critique. Donc à chaque fois qu'un critique ne correspond pas à cette haute idée de la critique.
Donc critique analytique plus critique d'humeur, les deux en même temps, mon colonel.
Absolument.
Parce que j'ai sous les yeux, figurez-vous, votre dernier éditorial dans Positif, daté de janvier dernier, et en post-scriptum, ça s'intitule « Une cinéphilie multipolaire ». post-scriptum, je vous cite, dans Libération, 28 novembre, Olivier Lame étreinte en bonne et due forme Les Veuves, un de nos coups de cœur du mois précédent, et conclut « Il serait temps, après 4 films, que Steve McQueen se résolve à devenir cinéaste. » Coup de pied de l'âne de Michel Simon. Et au bout de combien de temps devient-on critique de cinéma ? Point d'interrogation.
Ah oui, mais je regrette pas du tout cette phrase, parce que je pense qu'effectivement, les gens qui ont vu Shame ou 12 Years a Slave leur dire qu'il faudrait un jour qu'ils deviennent cinéastes, c'est tout à fait la réaction, c'est de quel droit parlez-vous ainsi d'un cinéaste admiré de ses pairs, qui a eu le prix de la caméra d'or, qui est, bon, on peut ne pas aimer Steve McQueen, bien sûr, j'impose à personne mes goûts et mes dégoûts, mais au moins un minimum de respect. C'est-à-dire que et ce que j'ai pointé dans une partie de ce volume qui est consacré à la critique, c'est que j'ai senti il y a une vingtaine d'années que la critique était en train de perdre de son influence à cause justement de jugements à l'emporte-pièce, si bien que les gens ne font plus confiance. C'est-à-dire que normalement, un film qui a une très très bonne presse, un film du Guatemala ou de Norvège qui a une très très bonne presse, où on dit que c'est un chef-d'œuvre absolu, il devrait y avoir des dizaines de milliers de gens. Or, il peut être soutenu par 4 ou 5 journaux influents et il n'y a personne dans les salles. Donc j'ai pointé cela. Et moi, j'accorde tellement d'importance à la critique. La critique est un si beau métier que je souffre de le voir dénaturé par des gens qui font en fait des numéros, des postures et qui veulent se mettre en valeur plutôt que les œuvres.
Nous avons demandé à un de vos amis, il n'est pas du tout critique de cinéma, il n'est pas cinéaste, il ne fait pas partie de ce monde du cinéma, il est architecte. Nous avons demandé à Patrick Bouchain de nous dire ce qu'il pensait de vous. Écoutez.
En effet, c'est peut-être quelqu'un d'exceptionnel et qui est en voie de disparition. C'est un vrai critique, voilà, c'est un très rare critique. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les critiques de Michel parce que, pour moi, c'est le contraire de la pédagogie. C'est-à-dire que la pédagogie, c'est quelque chose qui explique et qui tente d'aller chercher la personne sur un niveau faible de connaissances. En fin de compte, de voir le peu de connaissances qu'elle a et d'élever ses connaissances. Chez Michel, c'est l'inverse. On part de très haut. C'est comme si il était rempli de savoir et il attaque en se présentant lui-même. C'est-à-dire que c'est son point de vue qui compte. Et il se détermine en fonction de ce qu'il sait. Et donc, quand on lit ou qu'on entend Michel Simon, en fin de compte, on peut aimer ou ne pas aimer la critique qu'il fait d'un film, mais ce qu'on est à peu près certain, qu'on connaît son point de vue. Et donc, connaissant son point de vue, on a envie d'avoir son propre point de vue. Et comme aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une société où tout est modéré, tout est moyen, tout est non-dit, tout est artificiel, avoir quelqu'un qui connaît les choses, qu'il ait dit sincèrement, et qu'il ait dit avec admiration, qu'il ait dit avec cœur, qu'il ait dit avec joie, qu'il ait dit même avec... c'est peu habituel, quoi. C'est une sorte de curiosité enfantine. Il est toujours curieux de voir un film. Michel, je pense que c'est unique. Alors après, c'est la connaissance. C'est-à-dire que c'est pas que le cinéma. Voilà, c'est ça qui est formidable chez Michel. C'est d'avoir réinscrit le cinéma comme donc un art de premier plan, comme un art populaire, c'est un art savant, mais chez lui, c'est quand même considéré comme un art qui peut toucher le peuple. Et donc, c'est un savoir global. C'est-à-dire que Michel, ça peut aller du plus petit des métiers faits dans le cinéma. C'est-à-dire que vous l'interrogez sur un décorateur, un éclairagiste, un musicien, un scénariste, un producteur, un studio, un lieu. Il le renvoie, et quand il le renvoie, il ne le renvoie pas qu'à la profession du cinéma. Il peut le renvoyer à la peinture, au théâtre, à la littérature. Ben, je pense que Michel va donner sa bibliothèque. Moi, j'ai toujours, quand je vais chez lui, j'ai toujours envie de prendre un livre et de le lire. Il sait le livre que je prends. C'est-à-dire que si je le prends pour le lire le soir dans notre chambre, il sait qu'à tel endroit il y a tel livre. Et le lendemain, il est capable de vous demander ce que vous avez lu et éventuellement de rappeler qu'il y en a un autre qui complète ou qu'il y a une revue et il va chercher la revue dans laquelle il y a l'article complémentaire de ce que vous avez lu. Et donc, moi, j'ai une telle admiration pour sa bibliothèque que j'ai toujours peur qu'elle soit dispersée. Et donc, j'ai toujours dit, Michel, pense à donner tout ce que tu as et à le donner groupé. Et donc, j'ai envie de lui poser la question, à qui donnes-tu ta bibliothèque ?
Eh bien, voilà une question directe. C'est vrai que tout le monde sait, Michel Simon, que vous avez constitué une immense bibliothèque, une bibliothèque d'art, avec des livres très rares. À qui allez-vous la donner, ou peut-être n'avez-vous aucune envie de la donner?
Non, je crois que ce que dit Patrick
Bouchain
est
juste. Vous vivez avec vos livres?
Non, ce que dit Patrick Bouchain est juste, il faut préserver l'intégralité de cette bibliothèque. Je n'ai pas encore d'idée particulière, mais voilà. Peut-être on hésite un peu à faire ce sorte de testament, on pense que ça vous rapproche de la grande faucheuse.
Alors, le cinéma traverse une crise depuis déjà pas mal d'années. Il se trouve que cette crise pose beaucoup de problèmes aux directeurs de festivals de cinéma qui ne savent pas très bien quelle attitude adopter vis-à-vis de cette plateforme qui s'appelle Netflix. Dans Le Monde, le journal Le Monde, daté du 21 février, il y avait une lettre signée de François Aimé, une lettre achetée sous un encart publicitaire. François Aimé est président de l'Association française des cinémas Arts et Essais. Et il a fait paraître une lettre que j'ai trouvée très passionnante et qui commençait ainsi. « Cher Joël, cher Ethan, cher Alfonso. » Joël et Ethan, c'est les frères Cohen, et Alfonso, c'est Cuaron. Depuis, on sait que depuis dimanche, il a été Alfonso Cuaron a eu pour son film Roma l'Oscar
du meilleur réalisateur.
Du réalisateur du film étranger.
Et aussi du meilleur réalisateur américain.
Et du meilleur réalisateur. Enfin, et c'est un film que vous aimez beaucoup. Donc je vais lire simplement le premier paragraphe de cette lettre très très bouleversante, je trouve, parce que les milieux du cinéma sont très divisés sur ces histoires de Netflix, des auteurs, des cinéastes, etc. Nous avons vu tous vos films, nous les avons attendus, impatients comme notre public, un vrai rendez-vous avec des auteurs que l'on a aimé, admiré, montré et défendu. Nous avons vu et programmé tous vos films, tous à l'exception du dernier, Roma pour Cuaron, et quel titre déjà, ah oui, La balade des Buster Scruggs pour Ethan et Joel Cohen. Et Cohen, que s'est-il passé pour que cette longue relation de confiance et de mise en valeur de vos œuvres sur grand écran, devant un public d'aficionados, s'arrête comme ça brutalement? Alors que faire? Que faire?
Alors, d'abord, je dois rendre hommage à François Aimé, qui fait un travail formidable, parce que la France est un pays unique au monde. Et je crois que pour comprendre aussi ce texte, il faut savoir que nous sommes le seul pays au monde, véritablement, où on peut voir des films d'une aussi grande diversité, jusque dans les provinces les plus reculées. C'est une chose exceptionnelle. Et ça déforme un peu. Alors, ce que dit François Aimé, moi je suis à 100% pour, il faut préserver le calendrier ce qu'on appelle le calendrier des sorties, c'est-à-dire qu'un film, quand il est montré en salle, ne peut pas passer à la télévision avant un an et demi. Bon, ils sont en train de réduire les durées, mais c'est indispensable, sinon c'est la mort des salles. Si tout est accessible tout de suite, c'est fini, beaucoup de gens ne sortiront plus de chez eux. Alors on est en train de dire, oui, mais alors il faut vivre avec son temps, maintenant il faut se rendre compte que le cinéma, ça se verra sur un portable. Moi, je suis pas d'accord avec cette sorte de démission généralisée où il faut vivre avec son temps. Pour moi, le cinéma ne peut pas être vu sur un portable, ni sur une surface minuscule.
iPad, non.
Non, je trouve ça ridicule, je veux dire, voyez Barry Lyndon sur un iPad, enfin c'est grotesque. En même temps, quand Cuaron dit à Cannes, à Venise, à la conférence de presse de son film, il y a 400 journalistes du monde entier, il dit « Qui parmi vous a vu un film de Ozu, le grand cinéaste japonais, sur un grand écran récemment ?» Silence dans la salle, personne n'avait vu au Guatemala, ou en Ukraine, ou en Italie même, n'avait vu un film d'Ozu sur grand écran. Sauf que, au moment où il disait cela, à Paris, il y avait 8 films d'Ozu que l'on voyait sur grand écran.
Et qui ont obtenu un très vif succès.
Voilà, donc nous sommes un pays unique. Mais quand Cuaron dit aussi, j'ai proposé mon film en espagnol, une histoire en noir et blanc, parlée en espagnol, de ma famille au Mexique, vue par une femme de ménage, aucun studio n'en a voulu. Netflix est le seul qui m'a donné la promesse d'une exposition mondiale. Ils ont tenu parole, puisque le film Le Lion d'Or à Venise, et maintenant il a l'Oscar du meilleur réalisateur. Donc ça pose des problèmes. Je dis pas qu'il faut résoudre ça par se coucher devant Netflix, mais en même temps, il y a des lecteurs de positifs qui disent « Pourquoi dans cette revue vous parlez de Roma ?» Ben, notre rôle, c'est tout de même de parler des grandes œuvres. Si on se considère que Roma est une grande œuvre, c'est pas parce que c'est Netflix qui l'a produit qu'on ne doit pas en parler. En même temps, je suis très partagé. C'est-à-dire, je suis d'accord, par exemple, avec la décision de Thierry Frémaux à Cannes. Il a fait une fois une tentative de montrer des films Netflix, et depuis, l'année dernière, il n'y avait aucun film Netflix. Les Italiens, par contre, ont choisi de montrer Netflix, avec le danger d'ouvrir la boîte de Pandore, parce que ce Lion d'Or fait beaucoup de dégâts. Donc voilà, donc je ne peux pas vous donner une réponse vraiment définitive là-dessus, mais je pense que nous parlons d'un pays ultra privilégié et que c'est vrai qu'un film en espagnol, en noir et blanc, etc., n'aurait jamais été distribué dans aucune localité américaine. Aucun cinéma américain n'aurait probablement montré un film mexicain sur l'histoire d'une femme de ménage. Aucun. Donc là, des centaines de milliers d'Américains l'ont vu sur des grands écrans chez eux.
Ben, je vois que vous n'êtes pas du tout une espèce en voie de disparition. Dernière question, Michel Simon, vous irez au cinéma demain ?
J'irai au cinéma, oui, bien sûr. Je vais préparer un masque et la plume, donc j'irai voir Marie Stuart, que j'ai raté, et puis j'irai voir, enfin, pas, je n'ai pas dit que le film était raté, c'est moi qui l'ai raté, et puis j'irai voir aussi le film de Safi Nebbou avec Juliette Binoche, voilà, parce que c'est deux films qui sortent demain, et je fais un enregistrement la semaine prochaine du masque et la plume.
Seulement deux films, vous me décevez. Merci infiniment.
C'est demain, deux dans la journée, c'est beaucoup.
Non,
ça
mais
fait
je 14 rigole,
par semaine.
Rigole. Merci beaucoup Michel Simon, merci pour votre passion, votre enthousiasme et pour ce livre formidable qui s'intitule « Une vie de cinéma » avec une préface très drôle et très tendre de Édouard Baer et qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Puis on va continuer aussi dans le cinéma, même si on va l'écouter chanter. Elle a fait du cinéma avec son papa, mais elle chante tellement bien, c'est Lou Doyon.
Once again, it stirs you. I'm getting close enough to feel the heat, and I know just what you're going to say. Get as far as you can, make a U-turn, baby. But when I'm up close, it's too late to turn back. Oh, just like a book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the burn. See me bend, become a child again. Back on my tiptoes, oh, watch me shudder. By my own will, I'm heading for the fight. No matter where I start, I know very well where the sun's. But when I'm up close, it's too late to turn back. Oh, just like a book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the burn.
Merci à Julien Dumont qui était à la technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux, à Élodie Royenne, Sophie Dazard et Antoine Joubert, et à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission. Et après le prochain journal de la rédaction, vous avez rendez-vous avec qui ? Avec l'ami Mishka Sayas, qui est de l'autre côté du couloir dans son petit studio. Hier soir, Mishka, j'ai entendu un musicien que je ne connaissais pas, d'origine iranienne, qui avait une voix si douce et
si
sensuelle.
Ah oui, Rostam, oui. Ouais,
voilà.
Ouais. Voilà.
Et alors, on va continuer dans ces voyages au pays de la douceur ?
Bah oui, douceur, pas seulement, c'est un peu de la transe ce soir et ça sera tout autour de la Méditerranée, mais pas seulement, voilà.
Ben merci beaucoup, à tout à l'heure, Mishka.
Je vous en prie, merci.